Bienvenue dans l'émission Amphi 23 depuis le 23 Quai de Conti, Canal Académie. La radio de l'Académie des sciences morales et politiques s'adresse plus particulièrement au monde enseignant et étudiant et à vous, futurs bacheliers. Aujourd'hui, pendant 15 minutes, Amphi 23, dans sa série d'émissions Les philosophes et l'Europe, autour de la question centrale « Une Europe politique est-elle possible ?», s'interroge sur la façon dont les successeurs de Kant ont pensé l'Europe, en particulier Fichte et Hegel, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. Avec nous, pour répondre à ce sujet, Bernard Bourgeois, philosophe, membre de l'Institut, spécialiste de la pensée allemande, et Constance Hubert, journaliste à Canal Académie, vont nous éclairer par leur entretien. Bernard Bourgeois, bienvenue dans notre émission et bonjour.
Bonjour, mesdames.
Constance, la parole est à vous.
Merci, Marianne Durand-Lacaze, de me donner la parole. Bernard Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Au sujet de la vision de l'Europe, sur quoi s'opposent Kant et ses successeurs? Je pense notamment à Fichte et à Hegel.
Écoutez, la base du rationalisme kantien est celle du rationalisme post-kantien, en particulier, puisque vous les avez évoqués, du rationalisme de Fichte et de Hegel, ces deux bases sont différentes. La raison kantienne est une raison qui s'oppose à la nature, l'unité rationnelle s'oppose à la diversité naturelle. Par conséquent, il n'y a pas véritablement une intégration par l'unité ou l'universalité des différences, des singularités, des particularités. Au contraire, la raison post-kantienne, et notamment la raison hegelienne, s'incarne dans la nature. L'unité est immanente à la diversité, de telle sorte que l'universel est un universel rempli de la différence, c'est-à-dire une totalité. Il semblerait donc, en ce qui concerne l'Europe, puisque vous posez la question au sujet de l'Europe, il semblerait donc que ce rationalisme de la totalité, qui se différencie du rationalisme kantien comme rationalisme de la simple universalité, envisagerait la possibilité souhaitable de l'existence au niveau politique d'une totalité politique, une véritable totalité, une unité politique concrète comme celle d'un État européen, comme celle d'un État continental. Cependant, j'ajoute tout de suite que l'existence d'une totalité, au niveau par exemple culturel, au niveau socio-économique, car Hegel affirme l'existence de plus en plus réelle d'un marché mondial, l'existence d'une totalité à un certain niveau ne signifie pas qu'à un niveau supérieur, par exemple au niveau proprement politique, niveau supérieur par rapport au niveau socio-économique, une totalité peut se retrouver. Pour Hegel, il y a des tout politiques, pour Fichte aussi, mais, et je le dirai ultérieurement, il n'y a pas un grand tout des tout. La totalité se réalise à un niveau supérieur à l'élément de la politique, qui est l'élément de la seconde nature, l'élément de la réalité, qui différencie, qui disperse. Elle va se réaliser dans un élément supérieur, plus unitaire, plus idéal, celui de ce que Hegel appelle l'esprit absolu, où il y a essentiellement la religion, et celui de ce que Fichte appelle la communauté éthique.
Très bien, mais justement, nous allons commencer par Fichte. Qu'est-ce qu'est l'européen pour lui?
Pour Fichte, l'européen se différencie par exemple de l'asiatique en ceci que l'unité des communautés européennes est une unité qui fait droit à la diversité des peuples, à la diversité même des groupes, à la diversité des individus. Les États en Asie sont nés du mélange de ce que Hegel appelle un peuple norme, c'est-à-dire un peuple norme ou un peuple normal, un peuple normatif, un peuple qui, d'une manière ou d'une autre, a eu connaissance de la culture. Et du mélange de ce peuple avec des peuples barbares ou des peuples sauvages, en Asie, ce sont des éléments importants du peuple norme ou normal qui se sont unis avec les éléments sauvages et barbares et par conséquent, étant donné la puissance qu'ils ont représentée dans ce mélange, ont manifesté leur force en dominant et en réprimant les peuples barbares et sauvages, d'où l'existence d'empires autoritaires dans lesquels les diversités, et en particulier les individus, ne sont pas favorisées. Au contraire, en Europe, ce sont des éléments peu nombreux venus d'Asie, originairement appartenant à ce peuple norme ou normal ou normatif, privilégié par la révélation de la culture, qui se sont unis à des groupes barbares, beaucoup plus nombreux, de telle sorte qu'ils n'ont pas pu manifester semblablement leur force, qu'ils ont dû négocier, qu'ils ont dû reconnaître des libertés à tous ceux qui vivaient avec eux, d'où l'existence d'États où l'unité est respectueuse de la diversité, où le pouvoir ne réprime pas les singularités et favorise donc la naissance de la liberté. Par conséquent, les Européens se distinguent par cette réunion qui est véritablement productrice d'un vrai tout, tout communautaire entre le principe de l'unification et le principe de la diversification. Et cela va se manifester, si vous voulez, ultérieurement dans l'histoire. Les peuples européens, comme peuples synthétiques, mariant l'unité et la diversité, vont se révéler tels, en particulier lorsqu'ils vont accueillir en eux d'autres éléments, par exemple, ultérieurement, une religion venue de l'Est, précisément, du Moyen-Orient, la religion chrétienne, et de plus en plus, l'histoire de l'Europe va vérifier l'existence en Europe d'une réalité synthétisante dans le milieu, en particulier, des communautés politiques. L'homme européen, c'est un homme synthétique.
Et quel rôle joue l'Allemagne dans cette Europe ?
Alors, l'Allemagne, que Fichte considère comme le peuple souche du monde moderne, l'Allemagne est constituée par communautés qui ont affirmé plus que les autres l'existence de la diversité dans l'unité, l'existence de la synthèse, l'accueil de l'autre, ce qui enrichit la communauté, qui sont restées pures du déferlement de l'unité impériale, broyeuse de la diversité, qui s'est répandue par exemple dans le monde occidental mais romain, ne se sont pas mélangées comme beaucoup d'Européens avec les Romains, et parmi les Germains, ce sont les Allemands qui sont restés les plus fidèles à cette vocation synthétisante de l'Europe et des communautés européennes. Voilà pourquoi, selon Fichte, les Germains et au sein des Germains, les Allemands ont la vocation de régénérer l'Europe. L'Europe qui a perdu en quelque sorte sa spécificité en soumettant de façon excessive, tant dans l'ordre politique avec Rome que dans l'ordre de la religion avec l'Église catholique, cet État en quelque sorte ecclésial. Les Allemands ont mission, vocation de régénérer cette Europe, en particulier par une éducation qui va proposer à l'individu non pas la soumission à un universel ou à un ordre abstrait, mais enfin l'intégration de cet individu dans un réseau unifiant où la diversité est reconnue, et elle est la nation, et en particulier la nation allemande, qui est en voie de constitution et qui a été empêchée de le faire par suite de divers impérialismes où l'unité réprimait la diversité.
Passons à Hegel maintenant. A-t-il la même conception de l'esprit européen que Fichte ?
Pour Hegel, l'esprit européen, c'est l'aboutissement de l'esprit. Le progrès de l'histoire, de l'Est à l'Ouest, de l'Orient à l'Occident, ce progrès de l'histoire qui doit réaliser l'existence libre, c'est-à-dire une existence dans laquelle la singularité de l'individu se trouve chez soi, dans le milieu, c'est-à-dire l'universel au sein de laquelle elle vit, eh bien, cette réalisation de la liberté comme synthèse de l'existence, reconnaissance de la diversité dans l'unité, cette réalisation va caractériser le monde européen, le monde occidental, et dans ce monde occidental et européen, l'ouest de l'Europe et de l'Occident, à savoir essentiellement l'Europe constituée par la Germanité, par la France, etc., la Grande-Bretagne. Cette Europe est l'achèvement de l'histoire. C'est là que l'histoire s'accomplit. Elle ne pourra que se répéter ultérieurement, par exemple en Amérique. Mais l'accomplissement de l'existence synthétique, pacifiée, réconciliée, libre, c'est le privilège de l'Europe.
Et l'Europe, pour Hegel, est donc une synthèse ?
C'est une synthèse, effectivement. Et puisque pour Hegel, ce qui est véritablement et ce qui est vrai, c'est le tout. L'Europe, en tant qu'elle totalise l'humanité, cette Europe, si vous voulez, est une Europe qui n'a rien à redouter des autres continents, des autres communautés, par exemple asiatiques, puisque précisément, elle intègre en elle ce qui est à l'existence séparée et donc beaucoup plus fragile dans les autres nations. Hegel définit la culture européenne, telle qu'elle s'est réalisée par exemple dans la Grèce antique, comme caractérisée par l'accueil de l'étranger, par le mélange des cultures, par l'accueil de l'autre. Et c'est ce qui fait que, ultérieurement, l'Europe est le lieu où s'est opérée la synthèse du riche héritage gréco-romain et chrétien, l'héritage culturel. La synthèse de cet héritage culturel avec l'âme absolument fruste, avec l'âme entière des Germains, ce qui fait que le contenu culturel le plus élaboré a été affirmé par l'âme la moins cultivée des Germains, montrant ainsi un exemple de la synthèse de l'unité, de la simplicité, de l'identité à soi et du raffinement culturel à travers toutes les déterminations et les différences de cette culture. Voilà pourquoi l'Europe n'a rien à redouter d'ailleurs, parce qu'elle est en sa composition une existence humaine totale et que le tout est toujours plus fort que ces éléments composants dont se sont contentées les nations extra-européennes. D'où l'optimisme hegelien.
Merci Bernard Bourgeois pour ces explications. Marianne, je te laisse la parole.
Alors, on a vu par votre dialogue, Bernard Bourgeois et Constance, combien la philosophie de l'histoire est conditionnée par la philosophie du droit. Pourtant, ni Fichte ni Hegel ne sont pour une réalisation politique de cette Europe. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission où nous verrons que l'unité européenne est une unité non politique. Mais par contre, ce qu'on a bien vu aujourd'hui, c'est que ces deux penseurs avaient une très grande influence et que la base du rationalisme kantien, vous l'avez dit en début d'émission, était différente de celui de Fichte et Hegel, que là, on était dans un rationalisme de la totalité. Nous avons vu que l'homme européen, c'était un homme synthétique d'abord, c'était surtout ça l'important, que l'Allemagne a affirmé plus que les autres nations l'existence dans la synthèse et plus que les autres nations a montré cette capacité d'accueil de l'autre et que parmi les Germains, les Allemands sont restés, disons, les plus fidèles à cette tradition de la synthèse.
Donc, si vous voulez, je peux ajouter un mot.
Bien sûr, je vous en prie,
écoutez,
monsieur.
Écoutez, oui, je dirais pour annoncer la suite, si je puis dire, que cependant, bien que l'Europe, et pour Fichte, et pour Hegel, se révèle une totalité culturelle beaucoup plus intégrée que ce n'est le cas dans les autres continents. Cependant, il subsiste une différence dont Fichte et Hegel soulignent l'importance, puisqu'il n'y a de vie que là où il y a de différence, mais une différence qui peut-être peut empêcher la constitution d'une véritable unité européenne, à savoir, pour l'un et l'autre, l'Europe vit de la tension entre la romanité et la germanité. C'était d'ailleurs un thème déjà présent chez des penseurs et écrivains allemands antérieurs. Cette dualité que l'Europe s'emploie à maîtriser ne semble pas pouvoir être maîtrisée totalement. La guerre de 30 ans, par exemple, a montré que la romanité catholique et la germanité protestante ne l'avaient emporté véritablement ni l'une ni l'autre. Ce conflit européen a été un conflit sans vainqueur ni vaincu, ce qui semble indiquer qu'effectivement, cette tension heureuse, puisqu'elle est signe de vie, est peut-être ce qui pourra interdire l'accomplissement de l'unité européenne sous la forme stricte d'une unité politique.
Bernard Bourgeois, merci beaucoup pour cette interview. Et Constance, à la prochaine et dernière émission de la série Les philosophes et l'Europe. Très prochainement, la suite sur le post-kantisme élargi.